Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose, de manière fortuite ou non, sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. J'ai rencontré Laurence de Kock à la bibliothèque universitaire de Saint-Serge à Angers le 24 avril 2023. Elle venait discuter de son essai « Une journée fasciste ». Célestin et Élise Freinet, pédagogues et militants, en réponse à l'invitation d'un collectif angevin antifasciste. J'ai pu rencontrer Laurence de Kock avant la conférence. Je l'ai d'abord remerciée pour cet essai si riche et si clair qui permet de penser et de comprendre les affrontements politiques autour de l'école aujourd'hui. Comment en es-tu venue à travailler sur Célestin et Élise Freinet?
Alors, au départ, j'étais pas du tout décidée à travailler là-dessus. D'ailleurs, j'y connaissais pas grand-chose, en fait, à ces questions pédagogiques, parce que moi, je suis historienne de formation et j'ai travaillé pendant très longtemps sur l'histoire de l'enseignement de l'histoire. Donc, en fait, quelque chose qui n'a strictement rien à voir. J'ai travaillé sur les programmes scolaires, sur comment on enseignait l'histoire aux enfants. Et puis, petit à petit, j'en suis arrivée à travailler plutôt sur les pédagogies de l'histoire. Je me suis dit, tiens, les programmes, c'est bien, mais ce qui est intéressant, c'est d'aller voir aussi ce que font réellement les profs dans leur classe. Parce que les programmes, ils sont pas toujours appliqués, parce que voilà. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'entrer dans la classe. Je suis restée assez longtemps avec les programmes et j'ai envie de rentrer dans les pratiques. Et c'est par ce biais-là que j'ai rencontré en fait tout l'univers de la pédagogie et notamment l'univers des pédagogies alternatives, ce qu'on appelle les pédagogies alternatives. Hein, c'est assez réducteur comme terme, mais voilà, on va quand même le prendre. Et alors je suis entrée par une porte un peu particulière, c'est que c'était il y a quelques années, peut-être il y a 5 ans je crois, peut-être un peu plus d'ailleurs, où il y a eu le succès du livre de Céline Alvarez qui s'appelle « Les lois naturelles de l'enfant ». Céline Alvarez, c'est une institutrice, une professeure des écoles, qui était très Montessori. Et qui est passé à la radio, à la télé, etc., et qui décrétait avoir trouvé une formule magique pour que les enfants apprennent à lire et à écrire. Moi, je trouve toujours ça très suspect quand une collègue dit qu'elle a trouvé une formule magique. Donc, je me suis dit, je vais faire une enquête en fait sur le phénomène Céline Alvarez pour une revue qui s'appelle la Revue du Crieur. Et donc j'ai fait l'enquête et par ce biais-là, j'ai commencé à m'interroger sur Montessori. Et quand on croise Montessori, forcément, on croise un petit peu son miroir inversé, son faux binôme, qui est Célestin Freinet. Et donc je me suis demandé d'abord, un, pourquoi Montessori avait autant de succès, et du coup, deux, pourquoi Célestin Freinet en avait aussi peu. Et évidemment, comme mon tropisme est toujours d'aller vers ce dont on parle le moins, je me suis dit que j'allais plutôt travailler sur Célestin Freinet. Et de fil en aiguille, j'avais un projet de bouquin justement sur les pédagogies alternatives et je me suis dit, tiens, je vais aller aux archives quand même parce que je suis historienne et on ne peut pas s'empêcher d'aller aux archives. Et j'étais à Nice et je savais que Célestin Freinet avait travaillé dans la région, donc je me suis dit certainement dans les archives des Alpes-Maritimes, il doit y avoir des trucs et donc je commence à regarder. Et puis j'arrive aux archives et là, on me sort des centaines de cartons. J'avais 48 heures devant moi, donc j'étais complètement paniquée. Je me dis, mais non, mais de toute façon, pour mon livre, j'ai pas besoin de regarder tout ça. Puis en même temps, quand on est historien, on se dit, bah si, en fait, on peut pas ne pas regarder. Donc j'ai tout photographié. Ça m'a pris 48 heures, effectivement, j'ai tout photographié. Et puis, je suis rentrée chez moi, puis j'ai laissé ça, en fait, reposer, sans trop y toucher, parce que j'avais d'autres projets. Et pendant le confinement, donc en 2020, j'ai repris les archives. Et là, je me suis dit, mais en fait, je vais écrire un autre livre que celui que j'avais en tête. Je vais écrire l'histoire d'Élise et de Célestin Freinet à partir justement d'une aventure qui leur est arrivée que j'ai découverte dans les archives. et qui est le titre du livre, donc « Une journée fasciste, 24 avril 1933 ». Tiens, d'ailleurs, on est le 24 avril. Je viens de réaliser. C'est incroyable. Ah bah oui, dis donc. Voilà, donc voilà, c'est venu comme ça.
D'accord. Et alors, qu'est-ce qui lui a...
Transition. Alors, le 24 avril 1933... Célestin Freinet, qui est donc l'instituteur de la petite ville de Saint-Paul, qui est aujourd'hui Saint-Paul-de-Vence, il est l'unique instituteur d'une école voilà, dans laquelle sont scolarisés une trentaine d'enfants, et sa femme, Élise, qui est aussi institutrice, mais qui, elle, est en convalescence, donc elle ne travaille pas à ce moment-là. Mais vit aussi dans l'école, puisqu'à l'époque, les instituts avaient des logements de fonction. Et en fait, cet instituteur et sa femme, hein, tous les deux, ont mis au point une pédagogie assez particulière. C'était un couple très engagé politiquement, communiste, révolutionnaire, se disait vraiment pour une école prolétarienne. Hein, donc, ils étaient vraiment, ils assumaient leur côté révolutionnaire et très militant. Ils étaient membres du Parti communiste. On est dans les années 30, donc à un moment où à la fois le Parti communiste est fort, mais donc l'anticommunisme est très fort aussi. Et puis on est à un moment aussi où l'extrême droite est très forte dans les années 30. Et la pédagogie de ce couple divise beaucoup le village. Dans ce village, il y a des bourgeois, il y a un château, il y a des gens qui voient ce couple d'un très mauvais œil, qui les regardent vraiment en coin. Cette Élise Freinet qui fait du nudisme sur son balcon, alors ça affole complètement le curé. Enfin, en plus, évidemment, ils vont pas à la messe le dimanche, donc vraiment, ils commencent à être vus vraiment de façon très très sombre par une partie du village, et notamment par le maire du village, Joseph de Margne, qui, lui, est carrément de mèche avec l'extrême droite et avec l'Action française. Il est membre des Jeunesses Patriotes, qui était un groupe d'extrême droite assez important dans les années 30. Et Joseph de Margne est en conflit avec Célestin Freinet, parce que Célestin Freinet n'arrête pas de lui demander des trucs pour sa classe. Il lui dit « là, ça n'a pas été balayé, j'ai besoin de bois pour mon poêle à bois, les toilettes débordent, etc. » Donc il fait des courriers, et Joseph de Margne ne veut pas dépenser un centime pour l'école. Donc ils sont en conflit. Et Joseph de Margne dit « il faut que je coince, en fait. Il faut que je coince ce couple d'instituteurs et il faut qu'il dégage. Ouais, il faut qu'on le remplace, c'est pas possible d'avoir un communiste qui enseigne à nos enfants, et puis il est pénible, etc. » Et dans la pratique pédagogique de Freinet, il y a une pratique qui s'appelle le texte libre, qui consiste, comme son nom l'indique, à faire écrire librement les enfants et notamment faire écrire leurs rêves. Et un jour, il y a un petit qui écrit son rêve, et son rêve, c'est que, aidé de Célestin Freinet, son maître, il va assassiner le maire. Et le rêve du jeune garçon est imprimé, parce que Célestin Freinet utilisait l'imprimerie aussi, donc le rêve est imprimé, puis les enfants, ils rentrent chez eux avec le texte imprimé. Et donc, ça commence à circuler dans les familles que Célestin Freinet appelle à tuer le maire. Ça fait évidemment un scandale. Et une nuit, les murs de la ville, enfin du village, sont tapissés par des insultes à Freinet, par le rêve de ce petit qui s'appelle Diaz, qui est placardé sur les murs. Et là, ça commence à faire un scandale, vraiment. Et Joseph de Margne, le maire, appelle à une manifestation contre Célestin et Élise Freinet pour exiger qu'ils quittent l'école, parce que vraiment c'était des militants voilà, qui endoctrinent les gamins, etc. Et un matin, du 24 avril 1933, une centaine de personnes quand même se dirigent vers l'école avec des casseroles. C'est vraiment d'actualité, hein, avec des casseroles, avec des crécelles. Et exige la démission de Freinet. Il marche sur l'école et c'est extrêmement violent. Une mère d'élèves essaye de rentrer par effraction et Freinet prend peur et il descend dans la cour de l'école avec un revolver et il menace les familles qui manifestent et il leur dit « Je défendrai cette école et mes élèves coûte que coûte ». Voilà la scène. Voilà. Et quand il la raconte, il a appelé ça une journée fasciste, d'où le titre du livre.
Voici le texte libre de Salvatore Diaz, publié en 1932. 14 mars 1932. Mon rêve. J'ai rêvé que toute la classe s'était révoltée contre le maire de Saint-Paul qui ne voulait pas nous donner les fournitures gratuites. Monsieur Freinet était devant. Il a dit à monsieur le maire: si vous ne voulez pas nous payer les livres, on vous tue. Non. Sautez-lui dessus, dit monsieur Freinet. Je m'élance. Les autres ont eu peur. Monsieur le maire sort son couteau et m'en donne un coup sur la cuisse. De rage, je prends mon couteau et je le tue. Monsieur Freinet a été. Le maire et moi, je suis allé à l'hôpital. À ma sortie, on m'a donné 1 000 francs. Diaz, S, 11 ans, 10 mois. Laurence de Kock ajoute page 15 à la fin de la relation de cette journée fasciste. Cette manifestation constitue une journée de basculement dans ce qu'on appelle l'affaire Freinet. Les tensions qui existent depuis des années dans le village connaissent leur acmé dans cet épisode qui revêt une dimension lyrique avec l'image de ce petit instituteur en armes à l'entrée de sa classe, prêt à tout pour défendre les valeurs de l'école publique. Mais de nombreuses questions se posent. Quelle était la nature des griefs contre le couple Freinet? Quel a été réellement le rôle des notables de Saint-Paul? Pourquoi la scène n'a-t-elle pas fait davantage scandale alors qu'elle apparaîtrait aujourd'hui comme un délit majeur? Ce livre part de l'hypothèse que l'affaire Freinet peut être analysée comme le symptôme des tensions et des failles de l'école de la Troisième République. Derrière Célestin et Élise Freinet, derrière ce que Xavier Riondet et Henri-Louis Gault qualifient de « machine Freinet », pour rendre compte d'une véritable communauté pédagogique soudée par le militantisme, se joue la reconfiguration d'une école qui n'échappe pas à la crise économique et politique des années 1930. Retracer cette affaire passe par un contre-pied à l'histoire officielle de l'école républicaine pour en révéler les fragilités, pour en éclairer les non-dits. Tirons donc lentement les fils qui mènent cet instituteur, ancien combattant et pacifiste, à se saisir d'une arme pour clamer son attachement à l'institution scolaire malgré les mauvais coups qu'elle lui porte depuis de nombreuses années. Car cet événement pousse deux défenseurs de l'école publique à la quitter. Car cette affaire révèle le lien entre politique et pédagogie et les risques compris celles et ceux qui se sont battus pour le faire vivre. C'était la première partie de ma rencontre avec Laurence de Kock le 24 avril 2023.